Hello, hello, et bienvenue sur le podcast Productif et Serein, où nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux méthodes, techniques et astuces qui simplifient la vie, et que n'importe qui peut devenir productif et serein, dans le domaine professionnel comme dans la vie personnelle. Eh bien, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Emma et Jean-Philippe. Bonjour Emma, bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Emma, bonjour Romain.
Et aujourd'hui, Jean-Philippe va nous parler dans la veine un peu de la communication non violente, enfin je crois un peu beaucoup d'ailleurs, oui. De Thomas d'Ansembourg et de son livre phare, « Cessez d'être gentil, soyez vrai ».
Cessez d'être gentil, soyez vrai, effectivement, donc Thomas d'Ansembourg, et j'ai choisi en fait donc une édition un peu spéciale, puisqu'elle est illustrée par Alexis Nouella, c'est aux éditions de l'Homme. Alors en fait, petite anecdote personnelle. Donc j'étais
retour d'expérience pour les non-initiés de
un retour d'expérience de la formation que j'avais donnée. Donc communication bienveillante et authentique avec quelques participants donc. Et donc c'était signe des temps, nous étions sur un outil de visioconférence. Et une des participantes, je voyais que elle était en conversation pendant que nous étions au Rex, et puis de temps en temps sa caméra cessait, se rallumait, et en fait et elle avait un sourire pas crispé, mais je sentais bien qu'il se passait quelque chose parce que dans le Rex, hein, on après la formation, on voit des cas, enfin comment est-ce que les personnes ont pu mettre en place le processus de la communication non violente.
Et vous travaillez sur des cas qu'ils ont rencontrés depuis la formation.
Exactement. Comment est-ce qu'ils ont pu le mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et en fait, en continuant comme ça, je lui pose la question directement, quoi. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Et en fait, elle avait son compagnon qui était là, et qui devait, je sais pas quoi, c'est ça, hein, avec le télétravail, et qui lui disait, ah oui, hein, écoute bien ce que dit le monsieur, hein, parce que alors, quelquefois, hein, t'es pas tout à fait comme ceci ou pas tout à fait comme c'est ça. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Donc, une fois que le Rex a été terminé, on est resté en conversation avec cette fois donc la stagiaire, si j'ose dire, et puis son compagnon. Le conjoint, exactement. Et alors, ça m'avait rappelé en fait une anecdote sur une des formations de Marshall Rosenberg quand il en donnait au début. Et après le premier jour de formation, et donc il y avait un deuxième et puis sur plusieurs modules, mais enfin, ça commence évidemment par le premier jour et le deuxième. Et avant le deuxième, il dit « Qui a été assez bête pour utiliser le processus avec sa famille ?»
Elle a toutes les mains, se lèvent.
Elle a quelques mains se sont levées, voilà. Et donc, c'est quand même, ça m'a posé quand même une vraie question, c'est-à-dire comment est-ce que je peux convaincre mon entourage, alors les collègues, etc. Finalement, c'est assez simple parce que, en tout cas, c'est ma croyance, c'est que je peux dire que j'ai fait une formation sur une nouvelle façon de communiquer. Et puis, comme il y a l'aval finalement du groupe, enfin, ou en tout cas de l'entreprise, je pense que ça se comprend assez bien pour les autres collègues. Et puis finalement, c'est sur des choses où, bien entendu, il y a de l'enjeu, potentiellement des vues différentes, des opinions différentes, mais finalement d'un point de vue émotionnel, ça peut, hein, bien sûr, être à un haut niveau, mais avec l'entourage, l'endroit de l'émotion, il est toujours là et est tellement présent. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait être aidant pour que quelqu'un qui a appris ça, qui a appris donc la CNV, le processus OSBD, puisse l'utiliser sans danger, si j'ose dire, à la maison. Et alors évidemment, il existe toute une batterie et souvent très intéressante de conférences, de vidéos sur YouTube, notamment celle de Marshall Rosenberg particulièrement, mais également d'autres. Et puis En cherchant, et donc après la conversation avec les deux personnes dont je vous ai parlé, eh bien j'ai trouvé ce livre. Donc cessez d'être gentil, soyez vrai, dans la version illustrée. Parce que ce que je trouve formidable là-dedans, c'est que c'est un livre qui le présente de manière drôle, comme si il y avait quelque chose qui était dédramatisé, si j'ose dire, par rapport à quelque chose d'un peu sérieux, par rapport à quelque chose où effectivement on va travailler dans les émotions. Et au fond, sur cette image que la communication non violente a, comme quelque chose d'un peu vaporeux, quelque chose d'un peu gentillet, on dirait aujourd'hui bisounours.
Ouais, mais moi, je dis bisounours vaincra. Bisounours vaincra parce qu'il n'y a pas le choix.
Alors, non seulement bisounours vaincra, mais il y a quelque chose que moi je crois profondément, et pour l'utiliser et l'enseigner depuis un bout de temps maintenant, et c'est pour ça que il y a aussi dans mon approche d'enseignement une partie de l'assertivité, c'est que la communication non violente, moi je l'appelle bienveillante et authentique, bah il y a quelque chose d'extrêmement puissant derrière.
Ah bah c'est clair.
C'est-à-dire que le processus, il est extrêmement puissant, y compris dans l'affirmation de soi, parce que affirmer ses besoins, c'est quelque chose de puissant. Affirmer ses limites également, ça l'est. Et rappeler le cadre du travail, par exemple, quand on l'utilise au travail, et puis dans la famille, ben en définitive, de ce qu'on voudrait que les relations soient. Ouais. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, de pas du tout vaporeux et d'utilisable tout de suite. Alors, évidemment, il y a l'expérience qui va faire que de plus en plus, on va pouvoir parler la girafe de rue, si j'ose dire, plutôt que la girafe de formation ou de salon.
La girafe. Alors, je me permets. Oui. Voilà, pardon. T'allais expliquer ce que t'es que la girafe.
Ah bah, je voyais vos grands yeux étonnés. Mais non, pas tout à fait étonné. Alors, la girafe, en fait, disons que la communication non violente, elle s'oppose à la communication habituelle, voire aliénante. J'y reviendrai. Et donc, la girafe, ben, c'est, si vous voulez, l'illustration, pour le coup, de ce qu'est la communication non violente. C'est-à-dire que la girafe, elle a un très long cou, ce qui lui permet de prendre du recul.
De la hauteur.
Voilà, de la hauteur sur la situation. Elle a un grand cœur, un gros cœur, c'est l'un des plus gros du règne animal, effectivement. Et puis, elle a des sabots aussi, parce que figurez-vous que la girafe, eh bien, elle est très peu attaquée par les prédateurs parce qu'elle sait se défendre. Et les sabots de la girafe, c'est quelque chose d'important. J'entends par là, on est toujours sur cette image fausse de quelque chose de vaporeux. Non, non. C'est puissant. Le chacal, lui, bah, il est un peu au ras des pâquerettes, en tout cas au ras des plantes de la brousse. Il a pas beaucoup de longueur de vue. Il a le museau vraiment pris dans ses émotions et il a pas de hauteur de vue. Voilà. Mais le chacal, il a aussi beaucoup d'intérêt pour la communication non violente. C'est aussi l'endroit du théâtre mental. C'est tout ce qu'on se raconte et qui est un minerai absolument extraordinaire pour déjà se lâcher.
Ouais, c'est ça.
Voilà,
c'est
quand j'allais dire tout seul, hein.
Ouais, voilà. Ouais, moi je trouve que c'est un truc fabuleux. C'est au départ on veut pas trop aller vers chacal parce que quand t'apprends la CNV, tu dis bah non, tu veux être girafe tout de suite et tout. Et en fait, je trouve que c'est un défouloir super, et comme tu dis, c'est une mine, parce que d'abord tu vas te sortir plein de trucs, ça fait du bien. Des fois, il y a besoin de sortir des trucs, c'est pas vrai, c'est faux, c'est tout ce qu'on veut, mais on a envie de le dire, donc on le dit. Et puis là-dedans, eh ben on va trouver des portes qui ensuite vont nous donner des indices justement sur ce qui va pouvoir nous aider à résoudre le problème aussi. Il n'est pas que mauvais, le chacal, quoi.
Non, exactement. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvais ou de bon. C'est simplement à quel moment. Effectivement, laisser s'exprimer son chacal, c'est-à-dire tout son théâtre mental, tout ce qu'on se raconte. Ah là là, celui-là, il m'énerve, il comprend jamais rien, etc. Voilà, on a le droit.
Ah,
et ça fait
bien.
Du bien. Mais oui, on a le droit de se lâcher un grand coup.
Mais pas n'importe quand.
Bah oui, parce que effectivement, si l'autre est là à ce moment-là, bah disons que c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour renouer avec la personne et pour pouvoir avoir un échange de qualité. Néanmoins, quand on est tout seul dans son coin, pouvoir lâcher tout ça, ça fait du bien.
Ouais,
exactement, un exultoire qui est si on regarde bien tout ce qu'on dit à ce moment-là, bah, c'est une entrée formidable pour pouvoir savoir ce que sont ses ressentis et surtout, là, c'est vraiment
besoin, quoi.
Exactement, les transformer en besoins. Les besoins vont nous rassembler. Voilà, mais je pense qu'on avait fait un podcast sur la.
Mais nous l'avions, donc on vous renvoie, chers auditeurs, vers ce podcast parce qu'on va pas le refaire.
Non,
donc il est fait, il est bien fait. Et voilà, comme ça nous pouvons.
Voilà.
Mais si c'est toi qui l'avais fait, il est très bien fait.
Alors oui, Emma.
Est-ce que tu peux juste nous expliquer pourquoi c'est dangereux ou ce serait dangereux d'aller ou stupide d'aller justement pratiquer avec son entourage tout de suite là dès qu'on a quelques connaissances de CNV.
Alors
j'ai beaucoup d'anecdotes, mais je laisse Jean-Pierre répondre.
Ben parce qu'en définitive, d'abord c'est une expérience qu'on a eue soi, la formation, mais pas l'autre. Donc finalement, peut-être que la personne qui est en face, elle a pas compris quel pouvait être l'intérêt, la philosophie, et puis le processus tout simplement de la communication non violente. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne sait pas. Et puis deuxièmement, c'est vrai qu'au début, et c'est pour ça en fait, il faut avoir beaucoup d'expérience pour commencer à l'utiliser, enfin en tout cas de l'expérience pour l'utiliser, parce que finalement au départ, c'est pour ça que je parlais de girafes de salon et de girafes de rue. Au début, il y a quelque chose d'un petit peu artificiel dans la façon de s'exprimer, d'accord. Je vais dire par exemple. Quand je vois que la vaisselle n'est pas faite, ça m'affecte, car mon besoin de beauté ou mon besoin
de propreté, d'ordre
n'est pas nourri. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en parle ? Et la personne, avant même qu'on ait pu dire cette phrase, elle dit : comment tu me parles ? Tu me parles trop bizarre ce soir, d'accord ? Et puis elle dit : mais non, je te parle pas bizarre. Je viens de faire un truc de CNV. T'étais vraiment complètement bouché. Et c'est reparti, exactement. Donc voilà, et c'est à cause de ça en fait. Voilà, c'est parce qu'il faut vraiment de l'expérience. Et puis je crois prévenir l'autre en fait. Voilà, ouais. C'est une tentative. Je suis en train de faire une formation. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on teste, etc. Mais ça pose quand même entièrement la question de comment est-ce que je peux faire pour convaincre les gens que j'aime ou avec qui j'ai envie d'avoir cette communication qui me permet d'être proche de mes émotions, de mes besoins et puis de mon intention que la communication ça marche mieux tout simplement dans mon couple, avec peut-être des amis, avec ma famille. Voilà, et je trouve moi que un des outils vraiment merveilleux, c'est justement ce bouquin Cessez d'être gentil, soyez vrai, dans sa forme illustrée, parce que je trouve que du coup le fait que ce soit illustré, qu'il y ait de l'humour, je trouve que c'est une façon de, je pense que l'humour est une façon de convaincre tout à fait efficiente et efficace. Et je trouve que quand j'ai lu ce bouquin, j'ai trouvé ça formidable parce que je l'ai trouvé très bien fait. En fait, c'est né d'une rencontre entre donc l'auteur Thomas Asenburg et l'illustrateur Alexis Nouella. En fait, ça fait un petit moment que Thomas Asenburg il a publié son premier bouquin, donc Cessez d'être gentil, soyez vrai. Qui fait des conférences, etc. Et au cours d'une de ces conférences, il le raconte dans la préface. Voilà qui voit quelqu'un en train d'utiliser frénétiquement son stylo. Ce n'était pas Emma en train de faire des cartes mentales et ça aurait été intéressant de le présenter sous forme de carte mentale. Là, c'était un illustrateur. Et finalement, le livre est né de l'association des deux, et ça a permis à Thomas Asenburg de résumer son livre et de laisser la place à des illustrations. Et les illustrations, honnêtement, elles sont très drôles. Elles animent énormément le livre et elles sont l'occasion aussi de donner d'abord d'avoir un point de vue un peu décalé sur ce qui est en train de raconter l'auteur. Et je trouve que d'avoir de l'humour sur soi-même, c'est très très puissant. Et puis quelquefois, il y a vraiment des perles absolues, voilà, dans les dessins.
Et j'en profite pour dire que l'auteur lui-même, dans ses conférences, moi j'ai vu, j'avais pas lu ce livre-là, mais j'ai eu des conférences de Thomas Dassembourg, et franchement, il est drôle aussi. C'est-à-dire que ses conférences sont aussi marrantes, quoi.
Oui, exactement.
C'est pas un one man show, t'es pas mort de rire tout le temps, mais c'est vraiment marrant quand même, quoi.
Exactement, il utilise l'humour. Et il dit à un moment, j'ai été formé pour faire et pas pour être. Je trouve ça, par exemple, extrêmement puissant. Voilà. Et donc, son livre, finalement, il parle de son parcours, Thomas Dassembourg, et il raconte que son éducation l'a rendu finalement analphabète émotionnellement. C'est-à-dire qu'il avait pas les ressources pour voilà. Alors il a une très bonne éducation, je dirais, habituelle, des parents aimants, etc., hein, c'est voilà, mais qui lui avait pas appris finalement la sphère émotionnelle complètement. Et puis il y a cette histoire de politesse qui consiste quelquefois à pas être authentique avec soi-même. D'accord, voilà. Il y a des fois où il prend l'exemple d'un dîner, par exemple, où il dit oui, on se revoit, etc. Puis il a pas du tout envie, en fait. Et donc, mais il se sent obligé de dire ça. Ou alors également sur pour les hommes, comment est-ce qu'on traite les émotions? Un homme, ça pleure pas. Un homme, voilà.
Il raconte même
exactement comme. Mais il y avait pas de violence là-dedans, hein, dans ce qu'il a vécu. C'est simplement ce qu'on lui a inculqué. Alors il a d'abord été avocat, puis éducateur de rue. Toute la partie BD sur son expérience d'éducateur de rue, honnêtement, c'est vraiment très très drôle. Et parce qu'il raconte ses plantades au début, et sa force, hein, c'est qu'il en tire
des leçons,
exactement, des enseignements. Puis il est devenu éducateur de rue, comme je vous le disais. Puis il est devenu ensuite thérapeute, et maintenant c'est vraiment un des porteurs, hein, de la CNV. Il est très connu, et son livre a été a connu un grand succès, quoi. Et puis ensuite, il raconte quels ont été les pièges qu'il a vécu. Donc là, il est vraiment dans son parcours. Je trouve que suivre le parcours émotionnel de quelqu'un, comme il ouvre, il le fait de manière intelligente, et il ouvre. Est-ce que vous aussi, finalement, vous avez vécu ce genre de choses? Et je pense que dans le panel de tout ce qui donne de vivre des choses où l'émotion, elle prend le pas et elle devient presque, comment est-ce que je pourrais dire ça, elle nous submerge. Elle devient comme une sorte de presque de poison, quoi. Hein, voilà, comme quand on est sous, l'alcool devient une sorte de poison. On se retrouve avec lui, quoi. Il y a vraiment une identification à son propos. Il a donc plutôt appris à faire qu'à être. Il a pas mis l'estime de soi en lui-même, mais dans le regard des autres. Il a eu peur de la différence, et quelque chose dont on parle énormément en formation, c'est il ne sait pas dire non. Et donc, en fait, on suit son parcours dans le chapitre 2. Donc, le chapitre 1 étant consacré à son parcours. Là aussi, c'est un petit peu son parcours, mais voilà. Et puis, évidemment, à la fin, il y a une reprise des travaux de Marshall Rosenberg. Là, de la même manière, il le reprend de manière assez résumée et assez puissante, en fait. Je trouve que, en fait, son travail de résumé, pour pouvoir laisser de la place aux illustrations, est vraiment extraordinaire. Il a vraiment ramassé pour trouver, comme on dit, la substantifique moelle. Et donc, pour revenir à mon propos, je trouve que si on veut convaincre, si j'ose dire, ou comment sensibiliser les personnes de son entourage à la communication non violente, mais je trouve que c'est un outil vraiment extraordinaire. Voilà, il revient sur la communication aliénante ou habituelle, avec des jugements qui blessent, des croyances, des préjugés qui enferment, des pensées binaires qui mettent tout en opposition, qui divisent. Soit on est comme ci, soit on est comme ça, soit tu peux faire ci, soit tu peux faire ça. Mais voilà, plutôt que le « et », on peut faire ça et en même temps faire ça. On peut penser ça et en même temps penser ça, ou se mettre d'accord sur telle ou telle stratégie pour ça, ou tout ce qui est de l'ordre de « il faut »,« tu dois », »,« tu n'as pas le choix » qui plombe. Romain.
Ouais, je trouve que c'est super important. Je voulais faire un petit laïus là, ce moment-là, parce que vous savez, enfin vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais j'aime pas beaucoup moi tout ce qui est test profil psychologique, psychométrique, machin, tous ces trucs d'évaluation, etc. Parce que justement, pour moi, ça enferme. Et je dis pour moi, c'est-à-dire. Évidemment, à chaque fois que tu vois des formations comme ça, que ce soit, je peux les nommer, hein, que ce soit le DISC, le MBTI ou etc., qui sont, c'est ce qui est plus courant en ce moment. Les gens vont te dire oui, mais attention, on te dit tu es telle couleur, mais on sait bien que tu n'es pas, etc., etc. D'accord, mais la personne qui est en formation, elle reçoit cet outil-là. Elle est là pour un jour, deux jours maximum. Elle va apprendre ce qu'on lui donne et on lui dit les bleus ils sont comme ça, les jaunes ils sont comme ça. Si t'es un bleu, tu parles à un jaune, faut changer ça, faut machin, etc. Et forcément, je veux dire, c'est pas son job à la personne qui vient de se faire former pendant deux jours de travailler dessus et de continuer à essayer d'être super, comment dire. De bien comprendre l'outil et d'à chaque fois avoir ces nuances-là. La personne, elle prend l'outil, elle dit « Moi, je suis bleu. Je vais pas commencer à chercher les nuances. Déjà, je commence par être bleu. L'autre en face, il va commencer par être jaune. » Et puis on va et donc, je trouve qu'on s'enferme comme ça parce qu'on commence à être faux aussi, parce que si moi, je suis obligé de changer ma manière de parler pour essayer de m'adapter à la personne en face, d'abord, j'ai pu me gourer sur la personne en face. Donc, je m'adapte sur un truc qui est pas le bon. Et en plus, je suis plus moi-même, puisque j'essaye de m'adapter, etc. Et je trouve que ces outils-là, utilisés de cette manière-là, fausse, alors que je trouve que la grande force, justement, de la communication non violente, bienveillante, authentique, enfin, quels que soient les noms, c'est que justement, elle autorise à être authentique, et j'ai pas besoin du tout de savoir le profil psychologique ou comment est la personne en face. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'arriver à avoir un lien, et donc de discuter avec la personne pour trouver, essayer de comprendre son besoin. Et puis une fois qu'on a trouvé son besoin ou que moi j'ai réussi à exprimer le mien, je sais que là on va être en lien parce que le besoin est universel et la personne elle va le comprendre. Elle a le droit de pas le ressentir, de pas être d'accord, etc. Mais enfin elle va comprendre ce que je raconte et moi je vais comprendre ce qu'elle raconte et là on peut commencer à élaborer quelque chose et donc on peut commencer à mettre du et. Ouais, c'est tout le contraire de l'aliénant et je trouve que tous les trucs de psycho comme ça sont très enfin de psycho, c'est pas vraiment de la psycho en plus, mais tous ces outils de profilage sont très aliénants. Là où la CNV son grand intérêt pour moi, c'est justement tout le contraire. C'est permettre de relier.
Effectivement, si on prend donc ces techniques dont tu parles, en fait, elles nous rangent dans des cases.
C'est ça.
D'accord. Bon, alors après, c'est un petit peu comme l'astrologie, etc., hein, où il y a des caractères qui sont qui sont nommés ou qui sont décrits. Effectivement, la question, c'est de l'enfermement, même s'il y a des choses qui sont bien vues. Hein,
mais sans doute.
Que ce soit dans DISC ou même dans l'astrologie, j'entends par là simplement la définition des caractères. Bon,
ouais. Là, je te laisse parler. Non, j'allais partir sur l'astrologie et les origines, l'ésotérique et tout, mais ça va. Ah bah, alors, c'est un autre podcast. Non, c'est un autre podcast.
Bon, rendez-vous. Et mais c'est intéressant. Hein. Là où Marshall Rosenberg, honnêtement, moi, je le trouve impressionnant et extraordinaire. Et en même temps, hein, il a pris dans des travaux hein, qui avaient été faits sur la définition des besoins. Et en fait, les besoins, ce qui est très intéressant et ce qui relie, c'est que sont universels.
Mais
universels.
C'est ça qui est
fou. C'est-à-dire que un Esquimau, enfin plutôt un Inuit, quelqu'un à New York, un trader à New York, un paysan de la Beauce ou du Sichuan, eh bien, ils ont les mêmes besoins. Et nous avons tous les mêmes besoins. Et en ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en plus porteur, moi, de valeurs que j'aime, mm-hmm. et en tout cas desquelles je me sens proche, c'est qu'il y a bel et bien un universalisme. Mm-hmm. Des choses qui, quelle que soit notre langue, notre culture, le temps dans lequel nous vivons, eh bien, il y a des besoins qui nous rassemblent tous, et même quelquefois des comportements. Alors, il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, et il y a quelque chose qu'on retrouve absolument dans toutes les civilisations, c'est l'invitation au regard. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous regarder et qui va simplement un peu lever les sourcils. Eh ben ça, on le retrouve absolument partout. Mmh. Et donc, moi, je crois en cet universalisme. Et en tout cas, ce que je peux observer, c'est que quand je parle de mes besoins, d'un besoin, mon besoin de beauté, d'harmonie, de ponctualité, de choses tout à fait, voilà, hein, je peux rejoindre l'autre. Et réellement, ce que je peux dire là, c'est que je l'ai expérimenté dans ma vie, et c'est tellement puissant. Et quelquefois, pour régler des problèmes ou des questions vraiment profondes, ou des situations qui sont dans la durée, y compris avec des gens de ma propre famille. Mmh. Ma propre famille. Mais ce qu'il y a, c'est que avant d'aller utiliser la communication non violente avec eux, j'avais eu beaucoup d'expérience avant. Donc, je l'ai fait sans que ça se voie, si j'ose dire. Je parlais vraiment déjà plutôt pas trop mal.
T'avais intégré la chose, quoi.
Ouais, la girafe de rue. Si bien qu'il n'y avait pas ce côté un petit peu scolaire, exactement, un peu procédurier. Puisque c'est un processus peut-être artificiel que je pouvais avoir au début. Et voilà. Et donc avec les proches, c'est hyper puissant. Et quelle joie de pouvoir avoir une meilleure communication, des meilleures relations, de pouvoir faire sauter des zones où vous savez il y a la carapace où tout d'un coup il y a plus de fluidité. C'est juste un bonheur, quoi. C'est juste un bonheur. Voilà.
Ah bah je peux témoigner alors pour le coup de ça, puisque moi je crois que ma première formation CNV, ça devait être dans les 2010-2011 ou un truc comme ça par là. Et effectivement, j'ai eu la grande intelligence de tester direct le soir. Ça s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Mais pour dire que c'est pas perdu, puisque effectivement ma femme maintenant, après quelques années à regarder ça d'un peu loin, aujourd'hui elle est très impliquée dans le process, puisqu'elle donne des conférences avec le théâtre du fil de la vie, d'ailleurs, si jamais vous les entendez parler d'eux, des conférences pour présenter la CNV en entreprise. Mais tout ça pour dire quoi, c'est que moi je trouve que dans ma vie perso, ça m'apporte énormément pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Philippe, c'est-à-dire que le relationnel qu'on a elle et moi maintenant, c'est marrant parce que, alors évidemment, on se frite toujours, parce que ça arrive toujours d'avoir des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, etc. Donc les tensions n'ont pas forcément disparu du truc. Mais il y a quelque chose de... Tout d'un coup, on voit l'autre et on entend les mots, et on se dit, il est en train, ou elle est en train, d'essayer de prendre soin de moi, d'essayer de prendre soin de la relation. C'est-à-dire qu'au lieu de me rentrer dedans, comme on pourrait le faire quand on est des fois trop émotionnel, et comme ça peut quand même arriver, on sent que tout d'un coup, par les questions qui sont posées ou par la manière de l'autre parle, il y a ce côté, bon... On n'est pas d'accord. Là, il se passe un truc tendu, etc. Mais en même temps, on sent que l'autre, il essaye de nous rejoindre quand même. C'est-à-dire qu'il utilise le processus de CNV et de manière assez, enfin correcte, quoi. Enfin, je veux dire, pas procédurière du tout, mais on sent. Et au lieu de se dire tiens, c'est bizarre, on se dit tiens, c'est sympa, parce que la personne essaie de nous rejoindre.
Ouais, on voit l'effort de l'autre.
Et c'est ça. Et du coup, l'air de rien, ça calme. Alors, encore une fois, ça marche pas tout le temps. Il y a des fois, on a besoin d'air, on a besoin de dire, attends, là, ça va pas, laisse-moi une heure, je reviens dans une heure, quoi. Mais n'empêche que, et je trouve ça vachement sympa, et je pense que ça nous a énormément aidé dans notre relation de couple, globalement, quoi. Donc voilà, c'était juste pour apporter un témoignage.
Ouais. Et puis, merci du témoignage. Et également, la CNV, c'est pas gentillet. Hein, quand il parle d'être gentil, en fait, c'est une fausse gentillesse. C'est presque une hypocrisie, la gentillesse dont il parle. Et d'une part, donc c'est quelque chose de puissant, la CNV. C'est quelque chose où vraiment, d'abord ça fonctionne, et ensuite, c'est pas d'être gentil comme il le dit justement. C'est au contraire d'apporter aussi de l'affirmation de soi. Et puis c'est pas un club de gens en pyjama qui font ouga ouga, les gens qui font de la CNV, c'est des gens qui
restent. Je me demandais si
c'est non, mais c'est juste pour dire ça, c'est-à-dire que il y a c'est en fait moi je reste normal, des fois je continue d'être en colère, etc. C'est après comment je le traite avec les personnes avec qui ça m'importe de traiter ce truc-là, et puis aussi de m'interroger sur mes émotions, voilà, puisque ça fait partie de nous. Nous sommes des usines à penser et à émotion.
Et à sentir.
Et à sentir.
Emma.
Oui, je me demandais, est-ce que vos entourages, ils ont remarqué quand même quelque chose, même s'ils n'ont pas su forcément que vous avez fait cette formation, cette démarche, etc. Est-ce qu'au bout de quelques mois, quelques années, je sais pas, quelqu'un, un ami, vous a dit, bah, t'es différente depuis X temps, je sais pas, est-ce que c'est arrivé? Ou est-ce que vous influencez
vie,
peut-être
mais...
vos entourages aussi?
Avec ma mère, oui, tout à fait.
Oui.
Ah ouais, c'est quelqu'un avec qui quelquefois nos relations étaient un peu tendues. Mmh. Je pense que je suis le seul à avoir une relation un peu tendue de temps en temps avec ma mère.
Oui. Ah oui, oui. Sûrement.
Ouais, là il y a quelquefois, donc des fois il y a encore ça frotte, ça frite, voilà. Sauf que ça dure moins longtemps, sauf que ça fait moins souffrir, sauf que on arrive à plus vite à reparler de la chose, sauf que on réavance, sauf que on peut revisiter des situations même d'il y a longtemps, et je me sens suffisamment maintenant, comment dirais-je, girafe, pour dans ces moments-là arriver à ce que nous ayons des échanges de qualité. Ma mère, c'est quelqu'un à côté de qui j'avais pas envie de passer dans ma vie, quoi.
T'as raison, je pense.
On est une chouette relation, c'est quand même assez cool. Voilà, ou avec ma fille de la même manière. Donc elle me dit rien. Enfin, je veux dire, voilà. Mais pour le coup, de la même manière, dans les moments qu'on vit ensemble, voilà. Hein, quelquefois, les enfants ou les parents, enfin bon, hein, ça frotte un peu. Ce que je peux dire simplement, c'est que ces moments-là durent pas longtemps. Et que ça nous laisse plus de temps pour avoir des moments bien meilleurs. Parce que l'autre fois, j'ai regardé dans mon agenda et je me suis aperçu que j'avais plus le temps d'être malheureux.
Ah bah ça, c'est bien ça. Alors, je vais rester. On va conclure là-dessus. Alors, ça me paraît une excellente conclusion.
Pourquoi pas?
Eh ben oui. Ben merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ce tour donc du bouquin de Thomas d'Ansembourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai, mais la version illustrée, hein, c'est ça que tu recommandes.
La version illustrée, et puisqu'on en est au merci, merci Romain de m'avoir fait découvrir la CNV il y a quelques années maintenant.
Ah, mais c'est avec plaisir.
Allez, que ce soit dit.
Productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, et pourquoi pas, à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site qui est en accès libre à la lecture. Je vous rappelle l'adresse www.productifetserein.com, tout attaché, sans trait d'union. Bonne productivité, bonne sérénité, et nous vous retrouvons au prochain épisode.